Nous nous intéressons ce matin à l'un des points chauds de la géopolitique mondiale, ces temps-ci, le détroit d'Ormuz, zone surmilitarisée, extrêmement surveillée et tout à fait stratégique pour l'économie mondiale. 20% du pétrole consommé à l'échelle du globe y transite habituellement en provenance du golfe Persique. Le tableau est bien connu, la montée des tensions ces dernières semaines, ces derniers mois, rappelle d'ailleurs sur ces eaux bien des épisodes des tumultueuses années 80, la liberté de navigation qui devrait présider au mouvement des différents bâtiments commerciaux ou militaires dans le détroit n'étant jamais vraiment total ces temps-ci, et les moindres incidents constatés pouvant provoquer le déclenchement d'un conflit armé. À quel point ce qui se joue à Ormuz entre l'Iran et ses soutiens et les États-Unis sur fond d'accord sur le nucléaire, entre boutres et pétroliers, concerne notre avenir proche? Avec nous ce matin pour en parler, Marc Semo, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Monde, chargé des questions diplomatiques, vous signez dans l'édition du Monde datée d'aujourd'hui d'ailleurs un papier sur ces trois mois de provocation entre Iran et États-Unis. Évidemment, la confrontation est aussi plus large, mais on va revenir sur ce papier. Nous sommes également avec Jean Rollin, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et écrivain, vous avez consacré un roman aux accents documentaires sur Ormuz il y a quelques années, qui s'appelle tout simplement Ormuz, chez POL, et vous êtes un très bon connaisseur de la région dont il va être question ce matin. Avant d'en venir peut-être au terrain et à ce fameux détroit d'Ormuz, parlons des forces en présence. On peut peut-être commencer par la situation en Iran, parce qu'elle explique beaucoup, Marc Semo, l'Iran dont l'économie souffre incontestablement de la stratégie américaine dite de pression maximale. 10 milliards de dollars en moins sur les 11 derniers mois d'après Trump de ressources en pétrodollars.
Oui, c'est plausible. Et en plus, les exportations de brut iranien sont complètement tombées. De 1,5 million de barils jour à maintenant, c'était 2 millions et quelques. Et maintenant, on est à moins de 400 000. Et disons, le basculement, ça a été le 22 avril, quand Donald Trump, donc un an après avoir quitté le 8 mai 2018 l'accord sur le nucléaire, est rétabli.
Il y avait une petite soupape.
Voilà, rétabli des sanctions américaines, les a encore durcies. Jusqu'ici, comme vous le disiez, il y avait une petite soupape. C'est-à-dire, il y avait un certain nombre de pays qui bénéficiaient d'exemptions, et c'était les gros, c'était la Chine, et c'était l'Asie, le Japon, c'était l'Inde, c'était l'essentiel du marché. Et là, maintenant, eux ne bénéficient plus d'exemptions. Donc, ils ont peur de cette extraterritorialité des sanctions américaines. C'est-à-dire, si vous commercez avec l'Iran, vous ne commerciez plus avec nous. Donc, ils ont arrêté, de fait. Et aujourd'hui, la situation en Iran est catastrophique. Et donc, face à cette stratégie de pression maximale, l'Iran répond par une stratégie de résistance maximale avec une suite de provocations très calculées, très calibrées. Mais même si personne ne veut la guerre, ouais, parfois il y a des dérapages et il y a des scénarios catastrophes qui s'enclenchent.
Qui en souffre en Iran? Parce que tout ça joue évidemment sur la politique intérieure iranienne qui en retour influe sur la situation internationale. C'est Rouhani qui souffre, les modérés.
Bah, disons, tout le monde en souffre en Iran. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que personne aujourd'hui ne peut faire un discours ouvertement d'ouverture, parce que voilà, c'est être un traître, il y a une espèce de sentiment national, on fait bloc. Mais en même temps, ce qui est extrêmement révélateur, c'est que dans cette stratégie donc de provocation calculée, Rouhani lui-même ne cesse de répéter « Nous ne voulons pas sortir de l'accord, nous ne voulons pas la fin de l'accord, ce sont des opérations chirurgicales pour sauver l'accord. » Et donc il donne ses coups d'épingle, qui sont autant d'avertissements. L'ancien ambassadeur à Téhéran, François Nicoulot, qui est un grand connaisseur de la zone, dit « Ce que fait l'Iran, c'est un appel au secours, hein, avec toute cette stratégie de provocation calculée. » Mais voilà, dans ce genre de scénario, on ne contrôle pas tout.
C'est des clignotants aussi, ou des lumières rouges en direction de l'Europe. Hein.
C'est avant c'est aussi des appels, des lieux, des avertissements vis-à-vis de l'Europe. L'Europe veut garder cet accord. Hein. C'est la position de la France. L'accord a beaucoup de limites. L'accord, sur beaucoup de ses clauses, arrive à échéance en 2025, ce qui est quand même très proche. L'accord ne prend pas en compte des choses fondamentales, dont notamment le programme balistique iranien. Donc on pourrait imaginer que l'Iran continue à développer son programme balistique et puis, une fois sorti de l'accord, puisse mettre dessus une arme nucléaire. Donc ça, c'est le scénario catastrophe. Donc il faut compléter l'accord. Il y a aussi le rôle de déstabilisation régionale que joue l'Iran au Yémen et en Syrie. Mais malgré ça, la thèse des Français est de dire, voilà, on a un bout de l'accord qui tient, celui sur le nucléaire, qui malgré ses défauts a quand même été fondamental. Avant l'accord, on pensait que l'Iran pouvait en quelques semaines arriver à se doter de l'arme nucléaire. Maintenant, le break time, c'est à peu près un an compte tenu de la diminution du nombre de centrifugeuses. On est passé de, maintenant elles sont à peine 5000. Donc, on est dans une situation où l'accord a servi, l'accord a été utile. Ouais. Le problème, c'est de le préserver, de le compléter.
Mais à force de le détricoter, justement, côté iranien, est-ce que c'est pas justement justement l'Iran qui va se retrouver aussi responsable d'une sortie ou de la fin de cet accord. Est-ce qu'il est aussi possible de le sauver, cet accord? C'est ça.
De fait, c'est toute la question. Donc l'Iran lance ses signaux aux Européens, hein, sauf que les Européens n'ont pas été capables de mettre sur pied notamment le mécanisme Instex qui servait de mécanisme compensatoire pour pouvoir commercer avec l'Iran. Mais il faut être lucide, Instex ne concerne que des choses très mineures. La nourriture, les médicaments, pour résumer, comme disait un diplomate en ricanant, les pistaches et les tapis. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Donc l'Iran veut que les Européens, mais aussi la Chine et la Russie, les aident à contourner l'accord, ce qui n'est pas le cas. Et donc là, on est dans une espèce de compte à rebours, c'est-à-dire les centrifugeuses de l'Iran sont reparties. L'Iran a déjà dépassé le stock maximum autorisé de 300 kilos de uranium faiblement enrichi. Ça continue à s'augmenter. L'Iran a repris l'enrichissement à un taux un peu plus élevé, à peine 4% au lieu de 3,67% qui était le maximum autorisé. C'est un signal. Mais donc, les stocks augmentent. Donc, ces accros, qui sont encore mineurs, encore réversibles à l'accord, petit à petit, deviendront de moins en moins mineurs, de moins en moins réversibles.
Le compte à rebours est commencé, selon vous, Marc Semo?
Le compte à rebours est commencé.
Dans l'attente de l'explosion de l'accord?
De l'explosion, peut-être pas, mais disons de remise en cause beaucoup plus fondamentale de l'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la France joue ce rôle de médiateur. Il faut reconnaître ça à Emmanuel Macron. Il a parfaitement saisi l'ampleur de l'enjeu, pour des raisons toutes simples. La France est un pays qui, dès 2003, a joué un rôle majeur dans la tentative de trouver un accord avec les Iraniens sur le nucléaire. La France a joué un rôle majeur aussi dans la négociation de l'accord de 2015. Notamment, elle avait refusé une première mouture voulue par les Américains qui n'était pas très verrouillée. La France, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2017, la première où elle est Emmanuel Macron, Rouhani a refusé de rencontrer Trump qui était disponible. Ensuite, l'année suivante, ça a été le contraire. Là, la France essaye de jouer ce rôle de médiateur. L'idée, c'est, on va pas tout résoudre d'un coup, mais l'idée, c'est d'arriver à bloquer l'escalade, justement, pour que l'Iran ne se retrouve pas dans une situation où, de fait, l'accord est mort.
La France, tout comme l'Allemagne, d'ailleurs, ou d'autres pays, hein, refuse de jouer le jeu américain, mais on va revenir là-dessus. Juste sur Instex, ce dispositif donc qui est censé pouvoir permettre de contourner l'accord, pour l'instant, c'est zéro.
C'est zéro. Mais même si on met quelques milliards d'euros dedans.
Et avec la Chine et avec l'Asie, ça peut
d'abord, pour le moment, la Chine n'a pas répondu. La Russie a montré une certaine disponibilité, mais ça reste assez secondaire. La vraie question, et c'est là-dessus que l'on peut imaginer un compromis, c'est que, d'une manière ou d'une autre, en fermant les yeux ou en laissant faire, les Américains acceptent de remettre les exemptions sur les gros clients, qui sont la Chine, le Japon, l'Inde, ce qui permettrait de donner une bouffée d'oxygène à l'économie iranienne et donc, disons, de laisser le temps au temps pour essayer de remettre sur le tapis un accord beaucoup plus général qui englobe, outre le nucléaire, aussi les questions balistiques et les questions de sécurité régionale.
Alors c'est en fermant les yeux, mais c'est peut-être aussi pour contrer un effet qu'ils n'avaient peut-être pas prévu, hein, les Américains, c'est la montée des cours, évidemment, du pétrole, alors qu'ils sont pour l'instant assez faibles, mais quand même, qui joue sur l'Asie et qui va peut-être se retourner contre lui.
Ce qui peut jouer, mais pour le moment, ce qui est extrêmement frappant dans cette crise, c'est à quel point il n'y a pas de flambée des prix du pétrole. Alors ce qui veut dire deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les États-Unis sont beaucoup moins dépendants du pétrole du Moyen-Orient qu'avant.
Que dans les années 80.
Voilà, à peine 16%, ce qui est très peu. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde est parfaitement conscient que personne ne veut la guerre, à commencer par Donald Trump. Hein, il ne faut pas oublier que Donald Trump est en campagne pour les présidentielles, un second mandat, que Donald Trump s'est fait élire en disant « on n'enverra plus les boys au Moyen-Orient », donc il n'a pas envie d'une guerre. Il l'a montré au pic de la crise, le 20 juin, après que les Iraniens aient détruit un gros drone américain très cher. Il a dit « on a envoyé les avions, ils étaient prêts à frapper,
et 10
mais
minutes
au
avant,
dernier ouais. moment, j'ai dit non, parce qu'il n'y avait pas eu mort d'homme, ça aurait été un lourd bilan humain, et nous, il n'y avait pas eu mort d'homme avec l'abattage du drone. » Donc Donald Trump ne veut pas la guerre, les Iraniens ne veulent pas la guerre, mais dans ce genre de situation, parfois, les choses vous échappent.
Ouais, on n'est pas dans les années 80, hein, Marc Semo, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. Cette crise des pétroliers qu'on est en train de vivre là n'est pas la même que celle des années 80, qu'on avait appelée la crise
des tankers. Pour donner un ordre de grandeur, ça avait été entre 84 et 88, il y avait eu plus de 500 pétroliers détruits ou endommagés.
Voilà, ouais, gravement endommagés. Pas tout à fait la même chose. La stratégie iranienne, en revanche, elle est la même. On se rappelle de Rafsanjani qui, au début des années 80, avait expliqué soit tout passe, soit rien ne passe.
Alors exactement, c'est mot pour mot ce qu'a dit, attendez, je recherche.
Le pétrole iranien.
Si notre pétrole ne peut pas passer dans le détroit d'Hormuz, aucun autre pétrole ne passera. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que en termes de rapport de force, la situation pour les Iraniens est beaucoup plus mauvaise encore qu'elle ne l'était dans les années 80, pour une raison toute simple. Il y a eu d'une grosse base américaine à Bahreïn pour la 5e flotte, ouais. le centre général de commandement au Qatar, les Français ont une base à Abu Dhabi, donc il y a beaucoup de forces occidentales dans le Golfe. Les Iraniens, militairement, ne font pas le poids, mais leur stratégie d'harcèlement, leur stratégie de sabotage, leur stratégie d'arraisonnement de bateaux, comme on l'a vu là avec Stena et Impero, qui est un pétrolier suédois battant britannique, une réponse à l'arraisonnement à Gibraltar par les Britanniques d'un pétrolier iranien. Donc tout ça fait que, effectivement, cela fait des tensions dans le Golfe, des tensions dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, il faut voir, dans son point le plus étroit, c'est 38 km. Bon, c'est pas tout petit.
C'est la Manche où c'est le plus étroit. Hein.
Voilà, c'est un peu comme la Manche. Mais les bateaux voulés au fond, etc., de fait, sont obligés de prendre des chenaux qui sont extrêmement étroits, de même pas 2,5 km. Et c'est là-dessus que c'est extrêmement facile pour les Iraniens de faire des opérations de harcèlement.
Un terrain que vous connaissez très bien, Jean Rollin, pour l'avoir arpenté à de multiples reprises. Vous avez passé le détroit d'Ormuz bien des fois sur différents types de bâtiments, y compris militaires. C'est une zone qui se militarise et qui pourtant n'en avait pas besoin, qui était déjà extrêmement militarisée.
Oui, certes, mais enfin, c'est vrai qu'elle l'est plus que jamais. Bon, elle l'était déjà dans les. Enfin, je pensais à ce que disait Marc là, tout à l'heure. C'est vrai qu'un incident. Enfin, c'est vrai que le type de provocation calculée auquel se livrent les Iraniens peuvent entraîner effectivement des conséquences dont peut-être qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur. Quoi. Moi, je suis mauvais en date. Enfin, dans les années 80, c'est en 88, je crois. Bon, les Iraniens avaient semé un peu partout des mines, mais plutôt destinées, je pense, à perturber justement le commerce international. Bon, et manque de peau, il y en a une qui a fait péter une frégate américaine. Bon, et les Américains l'ont extrêmement mal pris. Et donc, ils ont déclenché par la suite l'opération Praying Mantis, mante religieuse, où ils ont détruit la plus grande partie de la flotte de surface iranienne.
On voit bien que le moindre petit accroc peut provoquer des conséquences.
C'est vrai que c'est un gros accroc qui n'était pas forcément calculé. Je ne pense pas que les Iraniens avaient pour but de couler une frégate américaine ou de détruire une frégate américaine.
Mais en même temps, il faut voir que même là, même à l'époque, c'est resté contrôlé. C'est-à-dire qu'il y avait eu effectivement cette montée de tension, cette destruction d'une partie de la flotte iranienne. Il y avait un croiseur américain qui avait même abattu par erreur un Airbus en 88.
Il y avait
290 morts, dont 70 enfants. Enfin, je ne me souviens plus exactement du nombre des victimes, mais ça aurait pu totalement dégénérer, et de fait, les choses sont restées sous contrôle. Donc il faut voir qu'on est dans un espèce de jeu qui est plutôt un bras de fer diplomatico-politique qu'un scénario de guerre. Mais c'est une guerre qui se déroule de fait sur plusieurs fronts. Il y a le front d'Ormuz qui est fondamental vu les enjeux dans le marché pétrolier, mais c'est aussi le front diplomatique, et c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, la question du nucléaire.
Il y a trop d'enjeux pour que ça explose, et ça n'explosera pas, c'est ça que vous nous dites ? Jean Rollin.
Non, mais je crois que c'est très difficile de faire des pronostics de ce genre. Bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux, mais en plus, c'est pas comme. Les relations sont très complexes. À un moment donné, enfin, je pense que c'est toujours le cas. D'ailleurs, le Dubaï, par exemple, de la Fédération des Émirats, avait des relations bancaires, commerciales, etc., extrêmement étroites avec l'Iran. En pleine guerre, les passes d'Aran, entre autres, venaient se fournir d'un certain type de matériel, notamment des motocyclettes, etc., à Dubaï, de manière tout à fait ouverte.
Vous décrivez dans votre livre Ormuz le nombre incroyable de salons militaires et de lieux où on pouvait acheter d'armements aussi.
Ça, c'est vrai que si on veut voir, de quel type d'armement les puissances, enfin, principalement occidentales en l'occurrence, disposent et mettent sur le marché, il faut se balader dans le Golfe.
Et la stratégie de harcèlement dont parlait Marc Semo tout à l'heure, et cette guerre asymétrique, vous la connaissez aussi très bien, elle peut aussi avoir des conséquences, Jean Rollin.
Oui, enfin, moi, ce que je connais, c'est selon ce dont j'ai été témoin, si vous voulez, pareil, c'était je crois que la première fois que j'ai navigué dans le Golfe Persique, c'était en 86, donc c'était une période de grande tension, et là, j'étais à bord d'un cargo français, qui était peut-être d'ailleurs moins innocent qu'il ne le prétendait ou qu'il ne l'imaginait, puisque l'équipage n'y est absolument pour rien. Hein, le détail des connaissements, l'équipage ne le connaît pas. Et en plus, ils peuvent aussi être truqués. Donc il n'est pas du tout impossible que ce bateau ait acheminé au Koweït des matériaux qui pouvaient servir à la défense irakienne. Quoi qu'il en soit, on a été contrôlé. Donc, on était contrôlé par des bateaux déjà, enfin des vedettes de la marine iranienne. On était survolé, mais vraiment au ras des antennes, par un avion de surveillance maritime, Orion, ça s'appelle, mais enfin qui est aussi un avion qui est susceptible de vous balancer un coup de canon ou une torpille. On était voilà, donc il y avait et souvent on était abordé également par des gens de la marine iranienne ou des pasdaran qui venaient contrôler des trucs, etc. Et qui à l'époque déjà détournaient quelquefois des bateaux sous des prétextes divers sur Bandar Abbas. Voilà. Donc c'était un dispositif qui était quand même assez semblable à ce qu'on est aujourd'hui. C'est toujours le chantage effectivement sur le commerce maritime à travers ce goulot d'étranglement qui est le détroit d'Ormuz.
Tout passe ou rien passe, hein, Marc.
Mais ce qu'il faut voir, c'est que les pays limitrophes, y compris ceux qui sont très anti-iraniens, type les Émirats arabes unis, actuellement sont en train de jouer les médiations à Mohamed Ben Zayed, bon, qui était dur d'entre les durs, qui était même encore plus dur que les Saoudiens face à l'Iran, aujourd'hui, est en train un peu de moduler les choses. Hein. Il y a eu leur chef de la diplomatie qui a été discuté à Téhéran. Le Qatar, c'est encore plus vrai, ils ont continué à garder des liens avec l'Iran, commerciaux, économiques, d'où d'ailleurs les pressions de l'Arabie Saoudite contre eux. Pareil pour Oman. Donc on est dans une situation où les pays locaux, eux aussi, veulent contribuer à faire baisser la tension. Alors, eux ont déjà pensé, depuis un certain temps, à installer des systèmes de pipeline qui leur permettent d'éviter Hormuz, hein, c'est-à-dire sur le golfe d'Oman pour les Émirats Arabes Unis, vers le nord et le Kurdistan pour l'Irak, vers la mer Rouge pour l'Arabie Saoudite. Bon, mais ça ne suffit pas.
C'est
mais,
très peu par rapport à ce qui voilà, transite,
c'est 20, très 20, peu par 21 rapport
millions
transite,
de barils par jour. Hein.
C'est quand même une conscience des enjeux. Et donc, aussi le fait que les pays limitrophes, qui sont des alliés des Américains, actuellement jouent la modération, va aussi dans ce sens-là. Et on a même entendu quelque chose qui pouvait sembler stupéfiant il y a 2-3 jours, Mike Pompeo, donc l'ancien patron de la CIA, l'actuel patron de la diplomatie américaine, dire « Moi, je suis prêt à aller à Téhéran », ce qu'il faut voir.
Ce qui ne s'est jamais vu. Hein,
ce qui ne s'est jamais vu depuis 1979, ce qui montre à quel point, pour le moment, on reste quand même dans une espèce de logique diplomatique.
Ouais. L'Asie, là-dedans, Marc Semo, comment joue l'Asie? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, elle commence à être pénalisée, la Chine notamment, par cet embargo américain. On les entend pas trop, là.
On les entend pas trop. Disons jusqu'ici, les pays asiatiques, pour des raisons variées et différentes, n'ont pas une diplomatie globale sur le Moyen-Orient. Mais oui, ils commencent à s'inquiéter. Alors, on a vu Shinzo Abe était parti en médiation.
C'est pour le Japon, hein.
Pour lequel le premier ministre japonais en Iran. Ça s'est assez mal passé, parce qu'au moment même où il était là, il y a eu des attaques contre deux pétroliers japonais de la part de la marine des Pasdaran. C'était une provoque. Alors, est-ce que c'était réellement les Pasdaran? Les Iraniens jurent, c'est pas nous. Enfin, bon. Mais disons, la mission de médiation s'était mal passée, tout le rôle aujourd'hui que joue la France, mais effectivement, il commence à s'inquiéter sérieusement.
Est-ce que c'est un révélateur, ce qui se passe à Hormuz aussi, des tensions en Europe, tensions diplomatiques, d'une certaine impuissance aussi de l'Europe en tant qu'Europe? On a vu que les Britanniques acheminaient, vous l'avez dit tout à l'heure, de nouveaux moyens militaires. L'Allemagne, la France, en revanche, refusent de jouer le jeu des États-Unis sur ce point-là.
Alors absolument, les Britanniques ont dit, nous, il faut faire une mission navale de protection pour assurer la liberté de circulation dans le Golfe. En la démarquant, au moins formellement, de cette idée américaine de créer une espèce de coalition navale. Bon, ce qui n'est pas très évident. Mais les Allemands, comme d'habitude, traînent les pieds sur ce genre de choses. Mais ce qui est très significatif, c'est que les Français, après un petit flottement au début, où Jean-Yves Le Drian, le patron de la diplomatie, semblait un peu plus possibiliste, Florence Parly, avec évidemment l'accord de Emmanuel Macron, dit non, il n'est pas question de renforcer nos dispositifs, il s'agit simplement de mieux coordonner nos actions, il s'agit surtout d'éviter tout ce qui pourrait être perçu comme l'escalade, comme quelque chose qui fait monter les tensions. Donc les Français ont une frégate là-bas, ils la gardent, ils ont des bases à Abu Dhabi notamment, mais pour le moment, on reste calme, on évite tout ce qui pourrait justement contribuer à rendre la situation encore plus incandescente.
Est-ce que c'est la bonne stratégie est-ce que c'est une stratégie qui peut payer à long terme? C'est ça la question aussi.
Disons, d'une manière ou d'une autre.
Si l'accord explose.
D'abord, il faut tout faire pour qu'il n'explose pas. Ensuite, il n'y a pas d'autre solution que de tenter une médiation. Et donc, il faut donner acte là-dessus à la diplomatie française de faire le maximum. Et finalement, elle ne s'en sort pas si mal compte tenu du contexte. On verra, l'objectif est simple. C'est le G7 hein, qui est sous présidence française à Biarritz. L'idée serait que l'on ait un espèce de texte des pays concernés qui disent quelque chose, et qu'ensuite, en septembre, à l'Assemblée générale des Nations unies, il puisse y avoir, par exemple, cette rencontre informelle, en marge de l'Assemblée, etc., entre Donald Trump et Hassan Rouhani. Mais c'est là-dessus, ouais. disons, c'est un peu ce calendrier sur lequel misent les Français pour bloquer l'escalade. Et ensuite, on commence à causer du reste.
Je vous relance en deux mots sur l'Europe. Tout à l'heure, vous m'avez pas répondu sur l'impuissance démocratique.
Disons, l'Europe, déjà, elle n'a jamais brillé par une diplomatie très unie et très efficace. Ouais. Ensuite, Federica Mogherini, au-delà de ses mérites, notamment, y compris sur le nucléaire iranien, est en fin de règne. Borrell, l'Espagnol, va reprendre le relais. Mais là, on est un peu dans l'entre-deux. Donc, c'est pas l'idéal pour lancer des grandes opérations diplomatiques pour l'Europe qui a, par ailleurs, toute son énergie concentrée sur le Brexit.
Allez, vous restez avec nous, Marc Semo, journaliste au Monde, et Jean Rollin, journaliste aussi et écrivain. On continue cette discussion juste après le journal de Clara Lecoq-Réal.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
À la suite de ces matins, et un focus ce matin sur le détroit d'Ormuz et sur ce que les mouvements auxquels on assiste en ce moment sur place peuvent provoquer à plus ou moins longue échéance, à plus ou moins longue distance, sur les équilibres mondiaux, les équilibres régionaux aussi, on va y revenir. Nous sommes en compagnie de Marc Semo, journaliste au Monde, en charge des questions diplomatiques, et de Jean Rollin, journaliste et écrivain, romancier. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, ce détroit d'Ormuz qui est très particulier, vous l'avez dit, Marc Semo, ce sont des passages très étroits pour les différents bâtiments
c'est
commerciaux.
C'est des hauts fonds.
C'est des hauts fonds.
Des îles.
Des îles et du coup des tracés, des lignes maritimes qui sont extrêmement étroites.
Ce qu'on appelle des rails, sont dans le jargon. Très, très précis.
Sont aussi des paysages extraordinaires,
Jean-Rolin. Le DST, en fait, le dispositif de séparation du trafic, oui, avec en effet un rail montant, un rail descendant, enfin un rail pour entrer, un rail pour sortir.
Tout ça étant donc très facile à contrôler par ailleurs.
Oui. Et d'ailleurs, enfin bon, s'agissant des paysages du détroit, ils sont pas faciles à décrire parce que ils sont quand même généralement noyés plus ou moins dans une brume de chaleur. Il fait extrêmement chaud, donc c'est extrêmement chaud et humide. Et d'autre part, c'est le rail sortant dans le dispositif de séparation du trafic qui passe le plus près de la côte omanaise et qui permet donc, quand le temps s'y prête, de voir un peu les paysages extraordinaires de la péninsule de Mousandam, qui sont parmi les plus beaux paysages du monde. À telle enseigne d'ailleurs qu'à l'instar du Machu Picchu, bien que ça ne soit pas encore dans les mêmes proportions, ce site fantastique qui a été très très longtemps épargné par le tourisme parce que le sultanat d'Oman était un pays fermé, est maintenant en train de s'ouvrir au tourisme avec des conséquences presque inévitablement catastrophiques à long terme. Enfin pour l'instant il y a des gens assez limités qui vont faire de la pêche ou de la natation sous-marine dans les criques de la péninsule du Mousandam, mais enfin malheureusement ça prendra vraisemblablement de l'ampleur. Moi je sais qu'un bled où j'ai séjourné qui s'appelle Kassab, qui est la ville omanaise, bon la plus proche vous voyez, de la rive iranienne, quand j'y étais il y avait un ou deux hôtels praticables. J'ai consulté récemment, je sais plus quoi, le TripAdvisor où il y en a maintenant 5 ou 6 des hôtels de grand luxe.
Ça commence à monter.
Voilà. Bon. Donc il y a, non mais j'ai aussi étrange que ça puisse paraître, même là, même dans des lieux de tension et par ailleurs des lieux où il règne généralement une chaleur absolument effroyable, il y a du tourisme et il y en a de plus en plus. Bon, bref, tout ça n'autre rien en fait que la péninsule de Mousandam, c'est vraiment un endroit formidable. Ce qu'on ignore aussi, enfin ce qu'on ignore, j'en sais rien d'ailleurs, mais c'est que elle culmine quand même à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Donc il y a un sommet assez haut qui s'appelle le Jebel Arim, je crois, bon, nous, on a parfois des vues aussi extraordinaires où il y a au sommet un gros radar qui doit contrôler d'ailleurs un peu tout le trafic dans le détroit. Et de l'autre côté, alors c'est des paysages moins spectaculaire, bien que au-dessus de Bandar Abbas, qui est le grand port iranien, donc sur le détroit d'Ormuz, il y a quand même une montagne qui, elle, s'appelle Cou et Genou. Enfin, évidemment, ça se prononce pas comme ça, mais bon, Cou et Genou, bon, qui fait aussi pas loin de 2000 mètres d'altitude. Mais celle-là, on la voit jamais, quoi. Enfin, on la voit. Bandar Abbas est vraiment au pied de cette montagne, et il est très rare, même de Bandar Abbas, qu'on la voit, quoi. Elle est dans des tons de jaune et d'ocre, on la distingue parfois au soleil couchant. Mais donc il y a quand même ces deux montagnes et dont l'une, enfin, et je dis une rive qui est visible donc par le trafic sortant, l'autre généralement pas. Moi je me souviens quand même, enfin à vrai dire je l'ai vérifié dans un reportage que j'avais écrit à l'époque parce que je savais fichtrement plus rien, mais une fois j'ai quitté donc le golfe Persique en Boutre. venant de Sharjah, donc dans les Émirats,
ouais, pour rendre
en Inde, à Bombay, pour faire dans le cadre d'un reportage sur le trafic de l'or, hein, qui incidemment est à l'origine de la fortune de l'émirat de Dubaï et de la famille de Sheikh Rachid. Bon. Et donc là, on est sorti en boutre, donc c'est évidemment, là on se fout des dispositifs de séparation du trafic, hein, et donc on passe, je pense, à peu près au milieu de cette passe, enfin, la plus étroite, qui fait donc une quarantaine de kilomètres, c'était au soleil levant, et on voyait les deux rives du Détroit, ce qui est assez rare. Mais si vous voulez, c'est comme le Pas-de-Calais, quoi. C'est aussi pas si fréquent de voir en même temps les deux rives, les falaises de Douvres et celles de Calais. Voilà. Mais bon, ceci pour les paysages. Ce qui est important aussi, c'est contrairement, ouais, en dépit des pollutions inimaginables qui se sont déversées dans ce malheureux golfe Persique, avec les attaques de pétroliers, les attaques de plateformes de forage, les attaques de lieux de stockage, etc., il y a une faune extrêmement riche, encore extrêmement variée. Moi, je me souviens d'avoir... Bon, évidemment, c'est futile, mais pour moi, c'est important d'avoir observé des balbuzards fluviatiles. C'est un très joli rapace pêcheur sur le littoral du Moussandam. On voit beaucoup de cétacés, beaucoup de dauphins, mais parfois aussi des baleines. On voit sauter des espadons. On voit une bestiole assez déplaisante qui est un petit serpent marin à rayures que les marins appellent le tricot rayé. Enfin, on voit un tas de choses, quoi, voilà, quand on a le temps et quand on est attentif. Donc c'est une zone qui est très, oui, avec des beaux paysages, une nature assez vivante. Enfin, il y a cette dimension-là aussi qui n'apparaît pas, évidemment.
Mais c'est important de la voir aussi. Et merci pour ce tableau, Jean Rollin, et cette peinture-là du détroit d'Ormuz, qui est aussi, évidemment, un terrain de jeu important pour les Pasdaran, les gardiens de la révolution iranienne. On va revenir à notre sujet un peu géostratégique. Une des consignes qui est donnée de manière assez ferme aux capitaines de navires qui doivent passer ce détroit d'Ormuz, c'est de s'éloigner au plus possible et dès que possible des côtes iraniennes.
Hein, oui, c'est la consigne, mais le problème, le rail est là, donc on ne peut pas s'en éloigner
beaucoup. Dès qu'on peut, voilà, on vient.
Au moins essayer d'être le plus loin possible. Et c'est là-dessus, effectivement, que les Pasdaran font leurs opérations de harcèlement ou d'arraisonnement. Alors, beaucoup ont raté. Hein, notamment, il y en avait une en juillet où déjà, après le blocage à Gibraltar d'un pétrolier, d'un tanker iranien qui apportait du brut à la Syrie, donc qui tombait sous le coup de l'embargo qui a été bloqué par les Britanniques. Ils avaient essayé de bloquer déjà un bateau britannique et une frégate britannique ou un destroyer est intervenu pour empêcher ça. Et puis ensuite, ils ont réussi à en prendre un autre qui était tombé en avarie de machine. Mais effectivement, il faut faire très attention et c'est effectivement là-dessus que se font toutes les escarmouches.
L'Iran, évidemment, joue un jeu aussi de déstabilisation régionale. On parle beaucoup, là, depuis le début de cet entretien, des conséquences globales que pourrait avoir un accrochage ou que pourrait avoir un conflit qui se déclencherait. Mais il y a aussi un jeu, évidemment, sur la région. Vous avez évoqué tout à l'heure le jeu d'Oman, du Qatar.
Oui, il y a un jeu régional parce que l'Iran a aussi sa propre politique. Hein. Disons, le détroit d'Ormuz est à la fois un lieu merveilleux, que vient de décrire Jean Rollin, et c'est en même temps, disons, la ligne de faille, la ligne de front du principal affrontement aujourd'hui au sein du monde musulman, qui est celui qui oppose les deux puissances montantes régionales qui sont d'un côté l'Iran, de l'autre l'Arabie Saoudite, l'un champion du camp chiite, l'autre champion du camp sunnite, et les détroits d'Ormuz est exactement sur la ligne de faille de cet affrontement. Donc autour de ça, il y a tout. On retrouve effectivement le Yémen où l'Iran soutient la rébellion houthi. Alors les houthis sont des chiites assez atypiques, mais globalement, ils font partie du camp chiite. Il y a l'Irak, hein, où les chiites sont majoritaires, même si l'Irak continue à avoir un jeu d'équilibre extrêmement habile entre les États-Unis et l'Iran. Il y a la Syrie, hein, où quand même l'Iran est le principal parrain du régime Assad avec la Russie, mais de fait beaucoup plus engagé sur le terrain. Il y a aussi le Liban avec le Hezbollah. Donc on voit qu'il y a cet expansionnisme régional, ce croissant chiite qui est là et bien là. Hein, c'est un des effets pervers, inattendus pour les Américains, d'avoir renversé Saddam Hussein. Ça a été offrir l'Irak et une grande partie de la région à l'Iran. Et puis voilà, l'autre camp qui a extrêmement peur de cette montée en puissance de l'Iran.
L'Iran qui impose donc sa marque et qui joue beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, sur cet accord pour essayer de le sauvegarder, mais qui en même temps, et en parallèle et en dessous, joue aussi évidemment une stratégie nucléaire.
Alors, l'enjeu central de tout ça reste l'accord sur le nucléaire. C'est-à-dire, c'était la tentative de bloquer l'accession de l'Iran à l'arme nucléaire. L'Iran était vraiment sur le point de devenir un pays du seuil au moment où il y a eu cet accord. Cet accord a énormément de mérite parce que, y compris s'il y avait eu le rêve de Benjamin Netanyahou et des plus durs des Américains qui étaient de faire des frappes en Iran, n'aurait rien résolu. Tous les spécialistes sont sur ce point d'accord. Ça aurait été un an et ensuite ils auraient repris. L'accord a le mérite de bloquer les choses pour 10 ans, de faire en sorte que ce temps avant que l'Iran puisse se doter de l'arme, y compris s'il ne respecte pas l'accord, soit plus ou moins de un an ou deux. Donc on est dans une situation où l'accord est très utile, mais cet accord aujourd'hui est toujours plus menacé. Alors ce qu'il faut voir, et ça va être un des grands enjeux aussi de la rentrée, c'est que le patron de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA, hein, qui était censé surveiller l'accord, qui fait tous les 3 mois un rapport.
Et qui disait jusqu'à maintenant que les Iraniens le respectaient.
Absolument. L'accord était respecté. Il y avait un rapport tous les 3 mois. Ouais. Bon, on va voir ce qui va se passer. Anamo avait réussi, c'est un Japonais, avait réussi à être réellement indépendant et équilibré. Et ce qu'il faut voir, c'est que malgré les accusations de Trump ou de Benjamin Netanyahou, les inspections que mène l'AIEA sont extrêmement poussées. Il n'y a aucun autre pays au monde qui doit subir, hein, y compris ceux qui ont signé le protocole additionnel du traité de non-prolifération nucléaire, des inspections aussi précises. Il y a des dizaines de milliers d'heures, il y a des milliers de caméras, c'est-à-dire tout est scruté avec attention, il y a sans arrêt des inspections, elles peuvent se faire de façon plus ou moins inopinée. Donc réellement, il y a un enjeu. Alors, dans l'absolu, on ne peut rien exclure, hein, qu'il y ait un truc totalement clandestin, secret, etc., etc. Mais pour le moment, il n'y a pas le moindre indice que l'Iran, jusqu'ici...
Ouais. Ces inspections, elles continuent, hein, Marc Semo.
Et ces inspections vont continuer.
Elles sont encore là. Et elles donnent une image précise de ce qui se passe.
Voilà. Et ce qui est très important, c'est que jusqu'ici, l'Iran, malgré les accros, malgré cette espèce de compte à rebours qui commence, avec le fait qu'il commence à accumuler des stocks d'uranium faiblement enrichis, etc., bah, pour le moment, et c'est ça qui est essentiel, ce qui prouve, entre guillemets, la bonne volonté de l'Iran n'a pas interdit son territoire aux inspecteurs de l'AIEA. De ce point de vue-là, il continue à jouer cela est essentiel.
Ouais, et ça va continuer encore combien de temps? C'est ça la question, c'est l'imprévisibilité maintenant de la situation.
Disons, le moment où l'Iran dira « on refuse les inspecteurs de l'AIEA », là, ça commencera à devenir extrêmement dangereux et préoccupant, mais on n'en est pas là. Hein, pour le moment, juste une dernière chose là-dessus, le pourcentage d'enrichissement iranien, hein, qui est passé à 4%, c'est très loin des 20%. Les 20%, c'est un seuil à partir duquel, une fois qu'on a enrichi l'uranium à 20%, ensuite c'est extrêmement facile d'aller à 80 ou 90% d'enrichissement et donc d'avoir un uranium de qualité militaire. Mais pour le moment, on en est encore très loin.
Donc les choses peuvent aller très vite. Est-ce qu'on a des nouvelles de cette chercheuse française, franco-iranienne, Fariba Adelra, qui a été interpellée, on le sait, il y a quelques temps en Iran? On avait appris la nouvelle il y a quelques semaines. Cette situation, pour l'instant, semble bloquée. Hein, elle est à
Evin. J'imagine que l'on négocie en sous-main, mais c'est une des tactiques de l'Iran. De la même manière qu'ils prennent en otage des pétroliers, voire des marins, il y a aussi cette prise en otage, de fait, appelons un chat, sur notamment beaucoup de binationaux, hein, des chercheurs. Il y a une Britannique aussi qui est accusée d'avoir voulu former des espions, en réalité, parce qu'on l'accuse d'avoir formé des journalistes sur place. Il y a cette chercheuse française. C'est une manière pour les Iraniens de mettre la pression sur les Occidentaux, et ça fait partie justement de ce grand jeu global de négociation avec de multiples cartes sur de multiples fronts.
Merci à vous, Marc Semo, journaliste au Monde. Je renvoie à la lecture de votre papier dans l'édition du Monde datée d'aujourd'hui. Et merci aussi à Jean Rollin, auteur d'Hormuz aux éditions POL. Merci pour votre participation à cette émission. Dernier roman en date, Crack.
En effet, oui.
Qui est paru cette année.
Chez POL.
Chez POL également. Merci à tous les deux. Il est 8h30 sur France Culture.